Baiser est un verbe qui s'est créé spontanément aux Antilles françaises, après le passage du cyclone Hugo. Ce terme désignait les voiliers portés en terre par les fureurs du vent. Il y en avait eu tant de beaux voiliers hugotisés, bordés enfoncés, dématés, coulés, percutés, déchirés, et même dans le cas des multicoques légers, envolés. Lui, il était terrassé, chaos debout après le passage d'Hugo, après cette nuit où les bateaux volaient. Après cette nuit au cours de laquelle il avait perdu son seul amour, un vaillant petit coutre peint en rose tendre qui s'appelait Chamallow. Son petit Chamallow aux aménagements pastels avait été percuté par un gros ketch en fer au ciment rustique de 35 tonnes, en dérive par le travers du trou à cyclone où il se croyait en sécurité. Il en sortit sa peau de justesse et vit sous cette pluie qui fouettait à l'horizontale, sous ce ciel de deuil dans lequel volaient des toitures entières. Il vit son bel amour détruit sauvagement sous les coups de boutoir du monstre. Il en sortit sa peau de justesse et au début, il le regrettait. Il vit mourir sous ses yeux son compagnon voilier de 10 ans. Il le vit démantibulé dans des souffrances insupportables. Il garderait toute sa vie cette image et ses sons émis par son petit voilier acculé à la côte par le monstre gris. Il conserverait toute sa vie l'image de son petit chef-d'œuvre d'ébénisterie, violenté par le monstre anonyme. Il entendrait toutes ces nuits les cris des petites jambettes de pavois éclatées, les hurlements pathétiques de son bordé enfoncé dans cette aube sale. Il n'oublierait jamais son petit foyer dispersé, détruit, éclaté aux quatre vents, ses trésors partant en dérive, son sextant dans la belle boîte vernie filant avec le flot à plus de 5 nœuds. Il se sentait hugotisé dans sa chair. Il sentait qu'il portait bien plus qu'une blessure, plus que ces choses qui ne laissent que des cicatrices. Il portait des stigmates qui se rouvrent et saignent, n'importe où, n'importe comment, et douloureusement pour toujours. Voir couler, sombrer son bateau était bien évidemment pour lui, comme pour tout marin normalement constitué, une hypothèse plausible, voire envisageable. Une hypothèse de deuil que tout marin considère avec le sérieux nécessaire un jour ou une nuit. Mais le voir violenté à mort, c'était trop. Voir sa fibre, sa viande, ce bois qu'il avait si patiemment assemblé et collé comme de sa propre sueur, l'avoir bêtement broyé, forcé par un monstre dans une aube triste, c'était trop dur, trop injuste pour ce petit coutre courageux qui n'avait jamais molli face aux intempéries, en plus de 20 000 milles de combats réguliers. Lui s'était mis à écrire, comme pour exorciser la chose, amoindrir la douleur de cette nuit d'horreur, comme pour conjurer la malédiction. Puis l'écriture s'était transformée en une drogue à accoutumance. Il se devait d'écrire. Il était impératif qu'il écrive. Il devenait pour lui physiquement urgent que les mots coulent de son poignet droit, comme coule le jus de la canne tranchée, comme la sève du ficus mutilé, ou comme pleure la sève du mansonnier. Les mots devaient saigner de lui comme saignent les véas. Les mots sortaient de lui comme en un épanchement, un de ces écoulements physiques incontrôlables, sang jaillissant de la blessure, lymphe de la brûlure, larmes de l'âme. Il fallait que ça coule, que ça suinte, que ça s'exprime. Sa survie en dépendait. Les mots le démangeaient. Les mots dus aux mots le rongeaient comme de l'intérieur. Comme ces mots épisodiques, paludisme ou dingue. Il écrivait partout où ça le prenait, dans les avions, les bateaux, dans la rue, dans les bistrots, sur les bancs publics. Il se sentait hugotisé à double titre, au sens météorologique de cette folie naturelle qu'est un ouragan tropical. Il se sentait également hugotisé au sens hugolien du terme. Il percevait en lui le souffle qui gonflait comme un spinnaker bien établi le vieil allumé des feuillets d'automne ou des contemplations. Tel, analysé, joufflu et puissant, le souffle sacré était en lui. Son bateau perdu, il se sentait si proche du vieil exilé rageur et si talentueux de Haute-Villahaus, qui, malgré l'opprobre et l'ignominie, jamais ne baissa sa garde. Si proche du vieil homme qui écrivait, penché sur sa mémoire dans une aurore avare, le vieil homme dont les mots se suivaient comme font les flamands, dans sa tête et sur le papier blanc. Si proche du chenu teigneux dont il aimait à chanter, non, non, le père Hugo n'est pas mort, car il bande encore, car il bande encore. Hugotisé au double sens de ce terme non reconnu par l'Académie, et il en était heureux d'avoir pu transformer son malheur en ce flot de mots qui lui remplissait l'âme et faisait le bonheur de ses lecteurs. Et puis l'Académie, lui, s'en battait les couettes. La seule Académie à laquelle il revendiquait un siège était l'Académie de la bière, pour s'y saouler un peu, et écrire beaucoup en terrasse dans les chaudes après-midi de juin lorsque les filles sortent de leur chrysalide hivernale. Il s'en foutait bien, lui, de cette académie des mortels qui sentent si fort la naphtaline et la tombe et entérinent tant de mots vivants avant de se faire eux-mêmes enterrer.